gisiez d'eau. Malgré cela, cette mère, de nationalité afghane, est mise en examen, placée sous contrôle judiciaire, mais elle est laissée en liberté. Voilà donc une femme de 37 ans qui frappe un adolescent de 15 ans qui agonise et une justice qui remet cette femme en liberté. Je ne sais pas quoi dire, je suis démuni, je ne comprends pas. Je ne comprenais pas non plus l'autre jour pourquoi un motard qui avait foncé délibérément sur un policier à Schiltigheim, policier qui tentait de l'arrêter lors d'un rodéo, je ne comprenais pas pourquoi ce motard ne dormait pas en prison. Il y a des choses qui m'échappent, sans doute, c'est ainsi. Laissons la justice effectuer son travail, selon la formule que tout citoyen doit réciter comme un catéchisme. Il est 9h, Chana Lousteau.
9h, 9h30, l'heure des pros, sur CNews et Europe 1.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les manifestants pro-palestiniens ont été délogés cette nuit du campus de Columbia. Ils étaient des dizaines à être retranchés depuis 24 heures. Un important dispositif policier a été déployé. Selon notre correspondante CNews sur place, l'intervention a été musclée. La présidente de l'université demande une présence policière sur le site au moins jusqu'au 17 mai. Une marche blanche en hommage à Matisse sera organisée samedi dans le centre-ville de Châteauroux. La décision a été prise en accord avec la famille de l'adolescent. On attend encore des précisions, mais les participants devraient passer devant tous les établissements qui ont compté pour Matisse, son école, sa maison, le restaurant de ses parents et celui dans lequel il travaillait. Et puis aujourd'hui, c'est le 1er mai, la fête du travail, et comme chaque année, des manifestations seront organisées partout dans le pays. Entre 120 et 150 000 participants sont attendus au total, dont au moins 15 000 à Paris. Alors est-ce que les forces de l'ordre s'attendent à des tensions? On a posé la question aux policiers. Loïc Travers.
On est sur un dispositif classique mais rigoureux. Comme vous le savez, à chaque manifestation de rue, même si elle se passe bien, le risque zéro n'existe pas. On a des risques qui sont liés aux activistes pro-palestiniens qui pourraient décider d'intégrer le cortège. C'est un peu la jurisprudence Sciences Po ou Sorbonne qu'on a vu cette semaine.
Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
Merci Chana. Marie-Estelle Dupont est avec nous ce matin. Vous nous parlerez de la GPA, de la violence des mineurs et peut-être des enfants qui sont sur les écrans, parce qu'un rapport hier est sorti de l'État. Et figurez-vous qu'il ne faut pas mettre des enfants de moins de 3 ans devant des écrans. C'est étonnant, hein. Vraiment, ils ont réfléchi pour donner cette information. Merci Georges Fenech, merci Dominique Jamais qui est avec nous, Gauthier Lebret, et notre ami Eric Nolon pourra parler de Paul Auster tout à l'heure. Mais l'affaire Matisse, si j'ose dire, je vous propose d'abord de voir, vous l'avez peut-être vu, je ne vais pas la lire, la lettre du père de Matisse qui est extrêmement émouvante. Mon matou, ma grosse loutre, comme d'habitude, besoin d'écrire, a-t-il dit, c'est une longue lettre qui est publiée sur Facebook que je vous invite à lire, si vous le souhaitez. On peut la découvrir sur l'antenne. Et je laisse évidemment à son père ces mots qu'il a écrits et je ne souhaite pas les lire pour des raisons qui sont évidentes. Et malgré cela, cette lettre est incroyablement émouvante. Vous pourrez la découvrir sur Facebook. Je vous propose d'écouter un témoignage d'un jeune homme qui est un des amis de Matisse. Et après, on va être avec Noémie Schulz, puisque je vous disais que je ne comprenais pas pourquoi cette mère qui a agressé ce jeune homme qui agonisait n'était pas en prison. Mais Noémie Schulz, comment ?
Moi non plus.
Vous non plus. Écoutez, nous sommes deux, et Noémie nous expliquera peut-être pourquoi. Mais d'abord, écoutons le témoignage de ce jeune homme qui était un ami de Matisse.
De ce que j'entends, oui, il y a eu quelques altercations entre les deux. Matisse, il venait souvent ici parce qu'il avait un ami qui habitait là, donc il venait le voir. Et les deux se connaissaient. Donc les deux, ils sont battus, sauf que... Donc voilà quoi, Matisse pensait pas que ça allait partir aussi loin, je pense. On jouait dans la même équipe de foot, donc à Beaulieu, à l'Étoile, ça s'appelle. Et ouais, on jouait ensemble. Donc les entraînements, c'était les lundis, mercredis, vendredis. Donc de temps en temps, on le voyait très gentil, poli, il nous serrait tous la main, un peu timide, mais normal parce que on est deux équipes et de temps en temps, il venait jouer avec nous. Donc on le mettait dans le groupe, mais rien à dire. C'était un. Comme je disais, pas un gamin à problème. Pas ma connaissance en tout cas. Ça fait clairement peur parce que la preuve que maintenant tout le monde sur soi a des armes, donc ouais, on est tous apeurés. En plus, j'habite à 100 mètres, donc c'est, ouais, ça fait peur de voir que notre quartier juste à côté, il y a des meurtres, et puis c'est bête, enfin, qu'à cet âge-là, au lieu de penser à leurs études, à leur avenir, ça pense à se bagarrer, à se mettre des coups de couteau, donc ouais, c'est juste dommage.
Témoignage recueilli par Célia Barotte. Noémie Schulz, que vous connaissez donc avec nous. Noémie, c'est vrai que souvent, je vous dis cela, et c'est un échange qu'on a ensemble, d'incompréhension sur ce qui motive parfois d'incarcérer, ce qui motive de ne pas incarcérer. En l'espèce, cette femme de 37 ans qui frappe donc un adolescent de 15 ans, qui agonise, qui reconnaît avoir donné des coups, qui est mise en examen d'ailleurs pour cette raison-là. Qu'est-ce qui fait que la procureure ne décide pas, ou la juge ne décide pas de l'incarcérer ?
Alors voilà, rappelez d'abord que c'est une décision qui n'est pas prise par la procureure, qui n'est pas prise par le juge d'instruction, mais qui est prise par un juge des libertés et de la détention. C'est très encadré, il y a eu un débat qui a eu lieu à l'issue de la mise en examen. Je ne vais pas justifier, vous dire c'est bien, c'est pas bien. Je vais juste rappeler que le placement en détention provisoire est encadré de façon très stricte par le code de procédure pénale. Encore une fois, on parle d'une personne qui n'a pas encore été jugée, pas encore été condamnée, et donc ça ne dit rien de ce qui arrivera à terme à cette femme quand elle passera devant la justice. Mais donc ce placement en détention provisoire, il est encadré, et ce n'est pas tant le critère de la gravité des faits. On est horrifié évidemment par les faits qui sont reprochés à cette femme, mais ce qui va amener à prendre la décision du placement en détention provisoire, c'est le risque de concertation avec le coauteur. Là, on sait que le coauteur n'est pas jugé pour complicité, mais l'auteur, le suspect a été placé en détention provisoire, et donc évidemment la concertation ne sera pas possible. Le risque de pression sur les victimes, et donc le risque d'une entrave à la manifestation de la vérité. Là, malheureusement, Mathis est mort, donc elle ne pourra pas faire pression sur lui pour entraver la manifestation de la vérité. Les garanties de représentation, le fait qu'on puisse craindre qu'elle se soustrait aux convocations de la justice. On imagine que des garanties ont été apportées. Vous allez me dire, elle peut repartir en Afghanistan. Là encore, il y a un contrôle judiciaire qui a été décidé. Le passeport lui a été retiré. Donc, on s'est assuré qu'elle ne pourrait pas se soustraire à ces convocations. Et puis, le risque de réitération des faits. Et là, on regarde notamment le profil, les antécédents de la personne. On voit que ça a joué pour son fils, puisqu'il avait des antécédents. Il a été placé en détention provisoire. Là encore, les magistrats ont estimé que pour cette femme, ce risque-là n'était pas avéré. Enfin, dernier point dont on a parlé dans certaines affaires, l'affaire Naël, on se souvient beaucoup du placement en détention provisoire du policier. On était en matière criminelle, donc on pouvait retenir le risque de trouble à l'ordre public. Cette femme est mise en examen pour des violences volontaires sur personnes vulnérables. On est sur des faits délictuels. La peine encourue est autour de 7 ans de prison. Ce risque-là de trouble à l'ordre public ne peut pas être un des critères de la détention provisoire.
Merci d'avoir effectivement expliqué juridiquement, le juge d'instruction que vous êtes.
D'abord, je dois dire que Noémie a parfaitement expliqué les critères de mise en détention ou de mise en remise en liberté. Ça, c'est clair. Mais enfin, on est dans une affaire d'une extrême gravité. La mort d'un jeune de 15 ans. C'est son fils qui l'a tué. Donc il y a déjà une carence éducative évidente. On vient récemment d'augmenter la peine 3 ans. Vous voyez l'inanité de toutes ces annonces gouvernementales. Hein. Et elle est là, elle frappe la victime au sol. Vous ne pouvez pas intellectuellement distinguer ces deux actions. C'est la gravité qui aurait dû, de mon point de vue, justifier effectivement une mise en détention provisoire. Après qu'il n'y ait pas de risque de concertation frauduleuse, qu'elle ne risque pas de s'enfuir. Ça n'est pas le problème. Le problème, c'est la gravité de ce qui a été commis et qui aurait sans doute mérité une décision autre. Voilà.
Dominique Jamais.
Oui, vous parlez avec raison de la mère du criminel, du jeune réfugié afghan. Elle n'est pas l'auteur de l'assassinat. C'est lui qui est l'auteur de l'assassinat. Et ce que l'on apprend à l'occasion de ce fait divers tragique, c'est qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Que quelques jours auparavant, il avait attaqué sous la menace d'un couteau un autre jeune homme, il l'avait agressé et il était toujours en liberté, lui. Et puis, deuxième chose que je voudrais dire à propos de ce fait divers, il y a eu beaucoup de commentaires, et avec raison, à cette occasion, on apprend, sans avoir de statistiques, que le nombre d'enfants, de jeunes gens qui vont à l'école, au collège ou au lycée désormais avec un couteau dans leur cartable est considérable.
Non, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que devant ce processus d'ensauvagement continu, la justice réponde comme si on était encore dans le monde d'avant. Moi, je pense qu'il faut augmenter la répression maintenant, parce que on voit bien que là, il y a un processus qui va bientôt être hors de contrôle. Là, le fait divers dont on parle, ça devient une routine. Je suis désolé d'utiliser ce mot, ça devient une routine, alors que c'est un acte quand
donc
même...
Donc ça s'appelle un fait de société.
Oui, plutôt, oui ouais. Ben exactement. Là, on est vraiment dans le fait de société, et la justice vous dit, ah ben non, il n'y a pas de risque de récidive, elle ne va pas retourner en Afghanistan. Moi, je trouve que ce sont des réponses de l'ancien monde. Oui. On est passé dans le nouveau monde, et la justice doit évoluer. La réponse n'est pas à la hauteur.
Bon. Voilà ce qu'on pouvait dire, et je remercie évidemment Noémie Schulz pour ses explications. Merci beaucoup Noémie. Nous allons maintenant évoquer l'agression de Samara et là encore, notre grand étonnement, les conclusions de l'enquête administrative. Ça n'a rien passé.
Pas de vague.
C'est même pas de vague là, c'est on se couvre. C'est encore autre chose.
Tout ça fait partie du même processus.
Si on se couvre, ça n'existe pas.
Mais on se couvre parce qu'on a dit, on n'est pas intervenu pour éviter le lynchage.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'a pas existé.
Il n'y a pas eu de harcèlement.
Ça n'a pas, ça, et puis, donc, ça s'est passé à 20 mètres de l'école. Personne n'est responsable, comme toujours. Personne n'est responsable, bien sûr. L'éducation nationale choisit de ne pas faire de vagues. C'est une possibilité d'interprétation. Donc, 4 semaines après l'agression de Samara, 13 ans, à proximité de son collège de Montpellier, l'enquête administrative n'a relevé aucun manquement fautif de la part de l'établissement, ni de harcèlement scolaire, contrairement à ce qu'affirme la famille. Alors, je ne sais pas si on va être avec la mère de Samara en direct, mais en revanche, je vous propose de voir le sujet de Chloé Tarka, dans lequel intervient d'ailleurs cette mère.
Aucune situation de harcèlement scolaire ni défaillance de la part du collège, ce sont les résultats de l'enquête administrative lancée par le ministère de l'Éducation nationale après l'agression de Samara. Publiée hier, l'enquête n'a pas permis d'identifier un climat global humiliant et agressif parmi les élèves, mais pointe du doigt d'importants problèmes relationnels avec d'autres élèves qui trouvent essentiellement leurs sources sur les réseaux sociaux.
C'est double peine pour ma fille, ça veut dire que, voilà, ben limite non, ben non, nous on a fait notre job, ça veut dire que Samara, t'as reçu des coups, t'as été humiliée, t'as été ça, tout ça et tout, mais nous on a fait notre travail, hein, tout va bien. De notre côté, c'est pas de notre faute, c'est de ta faute, c'est les réseaux sociaux, c'est ça. C'est un tel, mais c'est pas nous.
Le jour de l'agression, entre 13 et 14 heures, la mère de Samara dit avoir appelé l'établissement à 2 reprises pour demander que sa fille ne sorte pas du collège. De son côté, l'enquête explique qu'après avoir entendu l'ensemble des personnes directement concernées par ces potentiels appels et procédé à des vérifications, rien ne corrobore les propos de la mère de Samara. Interrogé, le professeur principal de son côté aurait bien correspondu avec elle, sans toutefois l'avoir informé d'un danger imminent pour sa fille.
Moi, j'ai dit les propos, je maintiendrai mes propos. On veut me faire passer pour une menteuse. Moi, le professeur, je l'ai eu au téléphone. Le professeur qui me dit que votre fille est limite en danger, qu'il y a des jeunes qui l'attendent.
Pour la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, interrogée hier sur France Inter, les équipes éducatives ont fait ce qu'elles pouvaient faire.
Vous vous souvenez évidemment de Madame Nicole Belloubet, cette longue litanie des phrases qui sont dites « Je puis vous assurer que mon bras ne tremblera pas ». Vous savez, toutes ces phrases, ces mots-valises, on en a
le
tellement
assez. Terminé, c'est depuis Jean-Michel Blanquer.
Elle avait promis ça le 4 avril, et en fait, ce que dit très justement ce rapport, c'est ce que vous disiez, ce rapport dit Madame, vous
mentez. La mère de Samara ment. Voilà, ce rapport, ça. Qu'ils assument. Voilà. Ils expliquent que c'est une menteuse.
Voilà,
qu'elle n'a jamais appelé l'école et que le lynchage n'était pas planifié. Voilà. Qu'elle n'a pas cherché à en avertir les professeurs et le proviseur.
Et qu'il ne sait rien.
C'est exactement au même point que lors de la mort de l'INSEE, il y a un an, avec la réaction de Papendaï. Bon.
Donc, effectivement, c'est le mammouth, l'éducation nationale. Madame Belloubet, pas de vague, là, pour le coup, pour elle, parce qu'elle ne veut surtout pas entrer en polémique, parce qu'il faudrait du courage.
Elle a dit que l'équipe a fait ce qu'elle pouvait. Il y a une jeune fille qui a été lynchée.
Mais bien sûr. Mais tout ça, je veux dire... D'ailleurs, c'est étonnant que ce soit une enquête administrative, si vous me permettez. Parce qu'une enquête administrative, c'est pas la même chose qu'une enquête policière.
Il y a les deux, Il y a les deux dans cette affaire.
Donc là, tu convoques tout. Si vraiment tu faisais le job, tu convoquerais effectivement... Devant les policiers, le directeur de l'établissement, des confrontations, parce qu'autrement tu n'en sors pas. Mais en fait, tout le monde a peur. La vérité, c'est que tout le monde a peur.
Bien sûr,
tout le monde a la trouille. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, parce que eux, ils vivent là-bas. Nous, c'est facile. On est ici à Paris. on est sur notre studio en train de parler. Le chef d'établissement, il a la trouille. Moi, je le comprends. Hein. Ça doit être l'enfer pour lui. Hein. Faut mieux que l'enquête administrative conclue à ça. Hein. Il est soulagé ce matin. Il dit ouf.
Ça, vous il a la trouille que... d'intervenir aussi quand on voit ce qui s'est passé.
Donc là,
à Maurice Ravel,
évidemment.
Notamment.
Mais tout le monde a la trouille. Tout le monde. Alors, la maman de Samara est avec nous. Bonjour, madame. Ah, elle n'est pas là, me dit Marine Lance.
Mais c'est précisément parce qu'on est maintenant dans une société où beaucoup d'adultes sont des fonctionnaires qui fonctionnent et non plus des adultes qui sont des figures exemplaires que la violence des mineurs augmente. C'est-à-dire que vous me demandiez de parler de l'augmentation de la violence des mineurs tout à l'heure.
C'est pas tous les mineurs. Hein.
C'est pas tous les mineurs, bien entendu.
Tout le monde n'a pas. Alors, faut
et
aussi
c'est pas
dire...
tous les adultes qui ont cette lâcheté.
Voilà, il faut dire précisément, les attaques au couteau. C'est pas tous les mineurs.
Bah, évidemment que c'est pas tous les mineurs. Mais cette violence qui augmente, elle est d'abord le fruit de un mineur est un mineur. Ça n'est
Marie-Estelle
pas un adulte.
Dupont.
Donc c'est d'abord le fruit de l'environnement. Quel environnement lui est donné ou ne lui est pas donné. Et sur les situations de harcèlement scolaire, quand on voit la lâcheté de l'environnement adulte, qui en fait se conduisent comme des fonctionnaires qui fonctionnent et qui veulent protéger leur carrière administrative, évidemment que l'enfant ne rencontre aucune limite. Et que tant qu'on dira pour réduire la violence, il faut équiper les lycées de caméras de vidéosurveillance, on passera à côté du problème. Le problème, c'est le lien. C'est le lien humain. C'est parce que vous avez un surveillant qui ressemble à un grand frère qui est un peu inspirant que vous allez le respecter, et que vous allez rencontrer une limite. C'est pas. En fait, on est dans une société qui veut répondre à la violence par du contrôle. Mais ça ne sert à rien. C'est pas le contrôle. C'est en amont. C'est quel environnement on leur donne dès le plus jeune âge. Pourquoi l'empathie n'est pas en place? Pourquoi on a de. En fait, Oscar Wilde disait ce qu'on a devant les yeux, c'est notre passé. Ça fait 40 ans qu'on fait des choix de société qui ne peuvent que conduire à cette violence. Ça fait 20 ans qu'en pédopsychiatrie, on vous dit les jeunes sont de plus en plus violents, de plus en plus jeunes. Et c'est pas une question de moyens matériels dans la famille, c'est une question de carence affective et de modèle dans la famille. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de père que l'enfant va être violent. En revanche, s'il y a un père qui fonctionne selon une logique clanique, tyrannique, qu'il est violent, qui frappe sa mère ou qui dit à son enfant « tu dois être le plus fort parce que sinon tu vas te faire écraser », il donne à l'enfant le modèle de la violence. Quand on voit ce jeune Afghan, qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il avait appris? Il a appris qu'il a une mère qui, potentiellement, quand il frappe, va se mettre de son côté, au lieu d'être la figure secourable qui lui met une grande mandale et qui va secourir l'enfant qui est à terre. Donc on voit bien que la famille est toujours première dans la violence des mineurs, mais que c'est aussi l'environnement, quand la famille échoue, c'est aussi l'environnement.
Je ne sais pas avec vous, mais là, en plus, tu importes sur le sol de France
bien
des
sûr.
Cultures... des comportements, des attitudes qui sont en rupture avec notre modèle.
Mais parce que la naïveté, la naïveté ou le cynisme, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou le cynisme.
Rappelle que l'Afghanistan n'est plus en guerre.
La naïveté ou le cynisme extrême de l'idéologie diversitaire, c'est d'imaginer qu'on va juxtaposer à l'infini des cultures et des anthropologies radicalement différentes et que ça va bien se passer. Mais sauf que quand, à la maison, vous apprenez la loi du plus fort, vous apprenez que la valeur de la vie d'une femme ou d'un nom ou de quelqu'un qui ne pense pas comme vous est inexistante, évidemment que quand vous êtes dans l'espace public...
C'est intéressant ce que dit Pascal sur la culture importée. Juste en deux mots, on n'a pas le droit de faire des statistiques sur l'ethnie. Contrairement... à 22 pays européens.
Il faut le faire.
Non, mais
il
c'est le sujet.
Le faire.
C'est le sujet.
Il faut tout
ça
changer.
Ça n'est pas pour stigmatiser.
Il faut tout
c'est
changer.
C'est pour mettre en place
partie,
des politiques
bien
publiques.
Évidemment.
Donc, mais il bien faudra évidemment. Bien un jour ou l'autre avoir ces statistiques.
Bien évidemment. Ouais. Mais bien ouais. évidemment. Mais vous avez parfaitement raison. Mais on y vient quand même peu à peu. Lorsque non. j'entends Éric Dupond-Moretti, je vois quand même qu'il évolue un poil.
Dans les pays
hier, il a parlé à LFI, il les a appelés les mollas. Donc, c'est vous dire si quand même...
Je joue Éric Dupond-Moretti pour les statistiques.
Là, vous êtes un peu optimiste.
Un petit changement.
Si, un exemple.
Je vous en prie.
À propos de la violence et en marge des affaires dont on vient de parler, j'ai lu hier, j'ai appris avec stupeur, qu'on allait désormais, ça sans vous avoir échappé, qu'on allait désormais cesser de comptabiliser à part... les attaques à armes blanches, elles vont être fondues.
Ah bah évidemment, il y en a tellement.
C'est déjà le cas.
Oui, il était question.
Il y en a tellement. La maman de Samara.
Il était question des statistiques sur ce genre d'agression, et on dit on ne les comptera pas à part.
La mère de Samara est avec nous.
N'apparaîtra pas.
La mère de Samara est avec nous. Les conclusions de l'enquête administrative. Bonjour madame et merci d'être avec nous. Vous étiez intervenue très rapidement après le harcèlement de votre fille, après qu'elle a passé quelques heures à l'hôpital. Je vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous. Cette enquête administrative, conclu que vous avez menti.
Oui, c'est ça exactement, voilà. Par manque de preuves au niveau du relevé téléphonique, on en conclut que j'ai menti, que ma fille elle n'a jamais été harcelée, que voilà, en fait, c'est ça les conclusions. Donc voilà, moi j'attends beaucoup de l'enquête judiciaire pour éclaircir tout ça. Je pensais de base que c'était parce que on m'a demandé mon relevé téléphonique. On aurait pu faire de même au niveau du collège on explique que le professeur ne m'a jamais prévenu que Samara allait se faire frapper. Il m'a dit les mots mot pour mot, je crains pour votre fille, venez la récupérer. Ces jeunes sont pas là pour parler avec elle, ils sont venus pour la frapper. Et là, en fait, l'enquête, les conclusions montrent que voilà, ce professeur n'était pas au courant, n'était pas inquiet, n'a pas dénié, on va dire, même lui-même, on va dire, informer la vie scolaire, parce que il a pensé que c'était rien. Alors bon, moi, quand je vois un groupe de jeunes qui est devant un collège, qui est étranger au collège, qui est là, voilà, en supériorité par une enfant qui est toute seule, j'en informe les responsables, j'en informe pas à 17h. On les informe immédiatement, voilà, il y a un souci. Voilà, moi, j'ai été en contact avec la vie scolaire. C'est par preuve de relevé téléphonique, tout simplement.
Bon, ce que vous dites, évidemment, est très grave.
Il y a eu les appels. Il y a eu les appels. Le problème, c'est que voilà, j'ai demandé le relevé téléphonique auprès de mon opérateur. J'ai échangé avec les deux personnes qui étaient venues pour mener l'enquête. Je leur ai expliqué que voilà, mon opérateur n'était pas en mesure de me fournir le relevé, mais que si la police le demandait, qu'ils étaient en mesure de le fournir à la police.
Ce que vous dites, évidemment, oui. Très grave, puisque vous mettez en cause un professeur avec qui vous avez parlé, qui dit manifestement que vous n'avez pas échangé. Ce coup de téléphone, votre fille est sortie à 17h, je crois. Il a été passé vers quelle heure ?
À 16h.
À 16h.
Le coup de téléphone, oui, elle est sortie à 16h. Samara, le coup de téléphone de la part du professeur, mais c'est noté dans les conclusions de l'enquête que le professeur m'a bien contacté à 12h30 et que, voilà, pour lui, après, voilà, l'échange téléphonique qu'on a eu...
À 16h, il dit que cet échange n'a pas existé, alors qu'à 16h, il vous dit, venez chercher votre fille.
Dans le rapport, on dit bien qu'il m'a contacté à 12h30, que voilà, il n'a pas estimé qu'il y avait de faits que Samara allait se faire frapper ou qu'elle était en danger, quoi que ce soit.
Votre version à vous, c'est ça que je veux comprendre. Oui. À quelle heure vous l'avez eu ? À 12h30. Et à 12h30, il vous a dit votre fille est en danger, venez la chercher. Voilà. C'est bien ça.
Exactement, c'est ça. Voilà.
Donc, et c'est ce que vous dites, et effectivement, vous n'avez pas pu aller chercher votre fille à 16h30, mais lui, aujourd'hui, nie qu'il a dit ces propos-là. Je comprends bien.
Oui, voilà, non, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai eu au téléphone, il m'a demandé de venir récupérer Samara, parce que il y avait un groupe de jeunes qui étaient étrangers au collège et qui étaient venus, il m'a expliqué clairement qu'ils n'étaient pas là venus pour parler avec elle, mais voilà, donc il avait peur pour Samara, il m'a dit je crains pour Samara, venez la récupérer. On s'est mis d'accord qu'elle termine les cours avant que je vienne la récupérer, et on s'est laissé comme ça au téléphone. Ce professeur a signalé ce qui est marqué dans l'enquête, moi j'étais pas au courant, qui a signalé les faits à 17h lors de son retour au collège. Je pense que au vu le fait que ces jeunes sont restés de 12h30 à 16h devant le collège, pour attendre ma fille, il a expliqué que même lui, il leur a demandé de quitter les abords de l'établissement. Apparemment, il y en aurait un qui aurait refusé, mais en attendant, ils sont restés présents devant le collège.
J'entends bien. Autre chose que je voulais vous demander, parce que ça avait surpris beaucoup de gens, vous étiez venu un matin chez nous, expliquer que votre fille avait été agressée parce que elle s'habillait à l'européenne et que c'était pour cela qu'elle était harcelée. Et puis j'ai eu le sentiment le soir que vous disiez quelque chose de différent, et vous aviez dit, je crois que c'était chez Cyril Hanouna, que votre fille était une bonne musulmane et qu'elle faisait 5 fois la prière par jour. Et je vais vous poser une question que tout le monde s'est posée. Est-ce qu'il y a eu des pressions de personnes que vous connaissez, de la communauté. Vous avez lu d'ailleurs quelque chose. Est-ce que c'est vous qui l'aviez écrit ou est-ce que ce message avait été écrit pour vous? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés et qui ont vu. Oui. Et je peux vous comprendre, madame, que vous ayez vous-même peur pour vous et que vous ayez été contrainte de dire des choses que vous ne vouliez pas forcément dire.
Non, écoutez, moi, ce qui s'est passé, c'est que dans cette journée-là où j'ai été reçue sur le plateau de TPMP, on va dire, c'est parti un peu dans tous les sens. Il y a des propos que, voilà, que j'ai tenus, qui ont été pris, qui ont été déformés, qui ont été amplifiés, tout ça et tout. Moi, au moment de partir à Paris, dans l'avion, je me suis fait un petit texte parce qu'il fallait vraiment mettre des mots précis sur ce qui se passait. Moi, j'ai expliqué que ma fille, voilà, on était pendant une période de Ramadan. Ma fille, voilà, j'ai expliqué que pour comparer à cette jeune fille et sa famille qui se prétendent, on va dire, pieuse et tout ça et tout, ma fille aussi était pieuse.
Donc, il n'y a pas eu de pression communautaire, pour être clair.
Non, il n'y a pas eu de pression communautaire. Non, bien sûr. Moi, j'ai voulu rectifier vraiment tout ce qui se disait sur moi ou tout ce qui avait été repris par... j'ai vu des posts. Voilà, j'ai dit non, il ne faut pas qu'on laisse ça parce qu'on fait partie de la même communauté. Après, niveau religion, peut-être qu'on a une version différente de la religion, mais moi, il fallait que je mette des mots précis. Et moi, le problème, c'est que voilà, moi, je n'arrivais pas à enregistrer. Il fallait mettre des termes précis sur ce que je voulais dire et j'ai dû écrire et prendre mon téléphone.
Voilà, eh bien, je vous remercie de cette précision. Voilà. Et c'était une question que nous pouvions nous poser. Je vous remercie grandement, d'avoir témoigné ce matin. On a pris quelques secondes de retard, il est 9h26, mais il me semble que c'était intéressant de vous écouter. Cher Thomas Hill, même un 1er mai, travaillez.
Oui, on est là bien. En direct.
Serait payé double aujourd'hui.
Ah, merci Pascal.
Je crois que les salariés, c'est ça, c'est
une. On est payé double.
Je crois qu'on est payé double. Les salariés sont payés double en France, c'est ça? C'est une bonne nouvelle. Une convention collective de tous les salariés?
En tout cas, pour les journalistes, c'est le cas, mais je pense que oui, c'est pour tous les salariés. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit.
Eh bien, écoutez, de toute façon, il y a très peu de salariés sans doute qui travaillent le 1er mai, sauf ceux qui, comme nous,
amènent l'information. Voilà.
C'est vrai que ça circulait bien ce matin.
Voilà. Bon, merci Thomas. Merci
bien beaucoup, Pascal.
Thomas, vous êtes à l'antenne.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et effectivement, toute l'équipe de Culture Média est là, arrive dans un instant en direct. Côté Média, on s'intéressera ce matin à un grand doc diffusé ce soir qui retrace toute l'histoire de la guerre d'Indochine, une guerre oubliée. Et puis, on sera ensuite avec Artus et Alice Belaïdi pour le film Un petit truc en plus qui sort aujourd'hui. À tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h sur Europe 1.
Culture Média.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh bien, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Ah ben, vous pouvez y aller. Ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc, le melon charentais vert est à 1,89€ la pièce. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, origine Maroc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Renault.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 900 km d'autonomie. En ce moment, Renault Clio E-Tech Full Hybrid est à partir de 210€ par mois.
Clio Evolution E-Tech Full Hybrid 145 hors option. LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 000€. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque. Voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
On en parle.
Reconnaître les signaux d'alerte de l'insuffisance cardiaque est essentiel pour sa détection et sa prise en charge. On en parle avec Sandrine, dont le père souffre d'insuffisance cardiaque.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Dortmund, Paris SG, ce soir à 21h sur Canal+, et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Europe 1.
Vous êtes
bien sur Europe 1. La matinée se poursuit dans un instant, ce 1er mai, avec toute l'équipe de Culture Média. Julien Pichenet pour le journal des médias. Exactement. Jean-Luc Lemoine qui arrive en petite foulée. Et Thomas,
il est là,
Jean-Luc Lemoine. Ça va?
Ça va bien.
Et Thomas, il est là tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Vous validez sur glace gratuit? C'est en ce moment chez Carglass. Et oui, jusqu'au 10 mai, si vous faites réparer votre impact ou remplacer votre pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace Bosch. Vous avez bien entendu, vos balais Bosch gratuits. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, prenez rendez-vous sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 79 centimes.
Le concombre?
Très oui, en ce moment chez Lidl, le concombre est à 79 centimes la pièce.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et le deuxième est à moins 50%, soit 39 centimes le concombre. Ça revient à 1,18€ le lot de deux.
Oh, ils encombrent vraiment pas. On est mal.
Bah, c'est le concombre.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-Er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment? Pas sur des nouveautés qui datent de pfiou, vraiment trop longtemps. Jusqu'au 27 mai, pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, profitez de 15% de réduction sur tous les portails standards et sur mesure. Oui, tous, 15%, même sur les nouveaux modèles de la gamme. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.fr, pensez à covoiturer.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Europe 1, le journal permanent.
Il est 9h32 sur Europe 1, juste avant Culture Média, le journal permanent avec Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ramener le calme à Gaza, c'est l'objectif affiché par Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine. Il rencontre ce matin Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien. Washington qui exhorte le Hamas à signer l'accord de trêve de 40 jours, valable jusqu'à ce soir. Nous sommes le mercredi 1er mai, jour de la fête du travail, jusqu'à 150 000 manifestants attendus partout en France, dont 15 à 30 000 à Paris aujourd'hui selon les renseignements intérieurs. Un 1er mai également politique, Jordan Bardella, candidat du Rassemblement National en tête des sondages, doit annoncer aujourd'hui les 35 noms qui vont constituer sa liste pour les élections européennes de juin prochain. Et puis du football, ce soir pour le PSG, dernier club français engagé dans la Ligue des Champions. À 21h, les Parisiens affrontent le Borussia Dortmund pour les demi-finales aller. Hier, le Bayern et le Real en sont restés à un nul de partout. Vous écoutez Europe 1, tout de suite Culture Média.
Allez Paris, merci beaucoup Nina. Et prochain point sur l'actualité à 10h sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Et bonjour Anissa Dadi, Jean-Luc Lemoine et Julien Pichenet.
Bonjour Thomas.
Eh oui, on est là en direct en ce 1er mai. Et le pire, c'est qu'on est content.
On est très content.
Et pour une fois, on va réveiller des auditeurs ce matin. Donc, faut pas parler trop fort. On va faire attention. On va faire le tour de l'actualité des médias tout à l'heure avec Julien. Et puis, on va s'intéresser à un excellent documentaire diffusé ce soir sur France 3, Indochine, une guerre oubliée, qui retrace toute l'histoire de ces 8 ans de conflit à 9000 km de Paris. Et nous sommes avec le réalisateur de ce doc, David Cornbrosa. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et puis dans la deuxième partie, on recevra Alice Belaïdi et l'humoriste Artus pour son tout premier film en tant que réalisateur. Ça s'appelle Un petit truc en plus et ça sort aujourd'hui même. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. On est ensemble jusqu'à
11h. 9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et on démarre bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors Jean-Luc, nous recevons donc David Cornbrosa pour son documentaire Indochine, une guerre oubliée.
Oui, déjà David Cornbrosa, si ça vous dérange pas, je vais vous appeler David. Hein. Pour des raisons assez claires de j'ai pas eu le temps d'aller chez l'orthophoniste. En plus, je vais vous dire, je suis très embêté, je pensais que vous alliez faire un documentaire, mais sur Indochine, le groupe.
Voilà.
Donc ce matin, j'étais obligé de jeter ma rubrique et j'ai regardé votre bande-annonce pour trouver de la matière à rigolade.
Ce fut une guerre effroyable, faite de négociations et de trahisons. Une guerre d'espoir et d'enfer. Un terrible gâchis.
Voilà, c'est là que j'ai appelé Thomas pour lui demander si t'es sûr de ne pas vouloir inviter Nicolas Sirkis. Non, plus sérieusement, je voudrais vous remercier pour deux raisons. Un, vous êtes le seul invité à avoir accepté de venir un 1er mai. Donc sans vous, on était mal. Et deux, je vais me précipiter sur votre documentaire car ma mère vient d'Indochine et donc c'est une guerre qu'elle n'a pas oubliée. Donc merci de l'avoir fait, vraiment.
Et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé tout autre chose. Oui. Marié au premier regard.
Exactement. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu l'émission, le concept est simple. Une femme et un homme qui ne se connaissent pas ont rempli un questionnaire type « j'aime, j'aime pas » et s'ils ont un fort pourcentage de points communs, ils se retrouvent à Gibraltar pour se marier. Bref, s'ils aiment tous les deux la plage et les pépitos, hop, c'est bon, mariage.
Ludivine, consentez-vous à prendre pour époux Raphaël, François, Xavier, Alfred, ici présent.
Petite précision, Ludivine va épouser Raphaël qui a quatre prénoms.
Ah hein, oui,
elle va pas épouser quatre maris.
Ah d'accord, oui.
Non, je précise parce que je vois Anissa qui est déjà en train de réserver un billon d'avion pour
Gibraltar. Ça sympa, ouais, comme idée.
Gourmande. Non, sérieusement, c'est assez mystérieux ces tests de compatibilité. Ça répond à quelle question exactement? Voici peut-être un élément de réponse.
Cette nuit, on a découvert ce besoin de revoir ce contact et ce lien tactile. Clairement, on est compatible sur ce point-là.
J'imagine leur questionnaire. Tu apprécies de toucher la personne que tu aimes? Clique dans le carré pour prouver que tu n'es pas un robot. Bah évidemment qu'on touche la personne qu'on aime. Si on reste à 3 mètres, c'est pas un couple, c'est de l'escrime. Tracy et Flo sont passés par la case mariage, eux. Et pour l'instant, tout va bien. Flo est sur un nuage et quand il est content, il utilise plein de métaphores.
C'est crescendo, enfin c'est même plus crescendo, là, c'est on est capot ouvert, pédale d'accélérateur à fond. J'avais dit que j'étais un badge de télépéage, mais là j'ai l'impression qu'il y a les barrières, ça y est.
Ouais, voilà, il est parti loin là.
Ouais, il est comme ça, Flo, c'est un mécanicien de l'amour. Voilà. Si vous voulez vous faire nettoyer le filtre à particules, c'est votre homme. Il a une petite bougie, mais il fait des étincelles. Et si vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence du sexe, il peut venir vous remplir le réservoir, ses jerrycans sont pleins. J'ai encore plein d'exemples si vous voulez. Non,
merci, non, ça ira.
Vous avez ce qu'il faut, ok. Bon, cette union, c'était pas gagné, car Tracy était très fermé au départ. Mais dans cette émission, je vous l'ai dit, il y a des spécialistes comme Estelle Dossin qui vient nous apporter un éclairage scientifique. Mmh. Écoutez bien.
Difficile de reconnaître dans cette jeune femme amoureuse et qui ne s'en cache pas, la Tracy d'il y a quelques semaines. Au contact de Flo, sa carapace est brisée.
Voilà, ça, il n'y a qu'une spécialiste qui peut nous apporter cet éclairage.
C'est intéressant.
Personne d'autre ne serait capable. Le problème, c'est que 5 minutes plus tard, je vous promets que c'est vrai, on a eu cette voix off.
Difficile de reconnaître dans cette jeune femme amoureuse qui ne s'en cache pas, la Tracy d'il y a quelques semaines. Au contact de Flo, sa carapace s'est brisée.
Oh non.
C'est
copier-coller. Il y a eu un piratage.
Ça va finir par se voir que les textes sont écrits par quelqu'un qui fait des copier-coller et les distribue au hasard. Hein.
Aïe, aïe, aïe.
Je pense que la personne qui écrit les textes avant a travaillé pour les Feux de l'amour ou les romans Harlequin parce que c'est à peine chargé sa prose.
Mais à quelques jours de la première rencontre entre ces deux âmes, éprise de passion, un événement que nul n'aurait pu prédire s'est produit. Le jeune homme reste gêné et mutique, comme paralysé par la beauté d'Ophélie.
C'est horrible. Moi, quand j'écoute ça, J'ai envie de ne parler qu'avec cette musique en fond sonore. Et ça me rend tendre. Je voudrais rendre hommage à tout le monde. S'il te plaît, voix off, décris-moi Julien Pichenet.
Lui qui fuit les relations tièdes et rêve d'une histoire où l'étincelle des débuts ne s'éteindrait jamais.
Oh, c'est jamais, tellement jamais, bien dit.
Jamais.
Mais il aime aussi le pot-au-feu. Romain doit se marier avec Camille parce qu'ils sont compatibles à vachement de pourcentage. Mais coup de théâtre, Camille a rencontré quelqu'un.
Elle a pris la décision de mettre fin à l'expérience.
J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques semaines dont je suis vraiment amoureuse.
Mais quelle horreur ça va être de se faire quitter par une femme que tu connais pas. Comment combler son absence alors qu'elle n'a jamais été présente? Comment oublier son visage alors que tu l'as jamais vu? Et enfin, comment vivre sans elle alors que tu as toujours vécu sans elle? Je vous laisse méditer là-dessus.
C'est vrai, en plus on a de la peine.
Bien sûr, c'est émouvant. On arrive à attribuer par ça.
Rien
ne lui échappe à ce Jean-Luc Lemoigne, très très fort. Merci Jean-Luc, qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur Europe1.fr.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas David Cambrosin. On va parler de ce documentaire événement à voir sur France 3 ce soir, Indochine, une guerre oubliée. A tout de suite sur Europe 1.
Culture Média,
9h30, 11h sur Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh bien, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Eh ben, vous pouvez y aller. Ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc, le melon charentais vert est à 1,89€ la pièce. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, origine Maroc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
40 ans de regard incisif sur l'Amérique. C'est ce que propose le musée Mayol en présentant une grande rétrospective de l'artiste américain Andrés Serrano. Plus de 80 photographies révèlent une Amérique aux mille facettes. Religion, sexe, pauvreté, racisme, Andrés Serrano explore tous les tabous de son pays. Andrés Serrano, portrait de l'Amérique, une exposition au musée Mayol à Paris. Un partenariat Europe 1.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid, à partir de 380€ par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 500€, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voire conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 de 9h30 à 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin.
Oui,
Thomas.
Je reçois ce matin David Cambrosa à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la bataille de Dien Bien Phu. Vous avez réalisé le documentaire Indochine, une guerre oubliée, qui sera diffusé ce soir en prime sur France 3.
Entre 1945 et 1954, la France a mené une guerre bien lointaine, à plus de 9000 km de Paris. Cette guerre a ravagé un pays, provoqué des centaines de milliers de morts et amorcé l'effondrement de l'Empire colonial français. Ce fut une guerre aux multiples facettes, une guerre coloniale, une guerre d'indépendance, une guerre froide, une guerre oubliée.
Une guerre oubliée, oubliée aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de la guerre d'Indochine.
Oui, on en parle très rarement et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a sous-titré une guerre oubliée. C'est une guerre qui est un peu éclipsée par la Seconde Guerre mondiale qui l'a précédée et la guerre d'Algérie qui lui a succédé. Et aussi la guerre du Vietnam, puisque dès que les Français, après la défaite de Dien Bien Phu, ce sont les Américains qui vont commencer ensuite leur guerre du Vietnam. Donc effectivement, c'est une guerre qui est un peu passée sous les radars et il fallait absolument...
Et qui est aussi passée sous les radars à l'époque, parce qu'on n'en parle pas aujourd'hui, mais on n'en parlait pas beaucoup non plus pendant la guerre d'Indochine. C'est ce que vous racontez aussi, les Français, ça ne les intéressait pas beaucoup, en tout cas les Français de France.
Oui, l'opinion publique au début est vraiment bien loin de ça. La France est en pleine reconstruction, on est en 45, 46, 47. Les Français, ce sont pas des appelés, les soldats qui vont combattre en Indochine, ce sont des volontaires. Donc c'est une guerre très lointaine et l'opinion publique se détache de ce conflit et ne comprend même pas l'objectif de cette guerre.
Mais on parlait quand même de guerre à l'époque, ou c'est comme pour la guerre d'Algérie, on parlait d'événements.
On parle de guerre, mais très vite, il y a le mot « sale guerre » qui arrive, puisque les communistes, bien sûr, sont contre cette guerre, et il y a une énorme campagne de dénigrement de l'armée française là-bas, et donc elle est très vite cataloguée « la sale guerre d'Indochine ».
Une guerre qui aura finalement coûté la vie à 100 000 Français, de 300 à 500 000 Viet Minh civils et militaires. Et vous retracez cette histoire avec la voix du comédien Philippe Torreton et puis surtout énormément d'archives. Il y a d'ailleurs que ça dans ce film, c'est 1h40 d'archives, très souvent, la plupart du temps, en couleur, colorisées j'imagine pour certains.
Oui, on a retrouvé des archives. Alors c'est vrai que c'était un conflit, vous le verrez dans le film, mais c'est une guerre qui est au début une guerre coloniale et qui évolue, ça devient un des centres, un des points chauds de la guerre froide. Donc en fait, toutes les puissances et tous les partis ont largement filmé et on a pu se procurer ces archives, archives américaines, archives françaises de l'armée française, ECPA très bien conservées, archives soviétiques, archives chinoises, archives vietnamiennes.
Ça donc, prend combien de temps de réunir coloris. Tout ça parce
que ah, c'est ça prend des mois, voire presque, pas des années, mais des mois avec plusieurs équipes. Et on rapatrie ces images, on les colorise, on les restaure. Et c'est vrai que le film, enfin, dérocher ces images en salle de montage, c'est quelque chose d'assez ingrat, c'est noir et blanc, c'est muet. Mais assemblé dans le film que vous allez voir ce soir, c'est quelque chose d'assez puissant.
Et on réalise, grâce à votre doc, ce qu'ont été ces 8 ans de guerre dans ce qu'on appelait la perle de l'Empire français, hein, l'Indochine française, qui rassemblait en fait l'actuel Laos, Cambodge et Vietnam. Donc c'est un grand, grand territoire. Ça a été, vous l'avez dit, une guerre particulièrement sale, face à un ennemi souvent invisible, qui en fait, lui, menait plus une guérilla, c'est ça ?
Oui, au début, les troupes d'Ho Chi Minh mènent... Enfin, n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'armes et pratiquent la guérilla. Et l'armée française n'est pas du tout préparée à ça, puisque les chars s'enlisent dans les rizières, les armes françaises ne sont pas du tout adaptées, la stratégie, la tactique n'est pas du tout adaptée à ce combat. Et le conflit va s'enliser, et bientôt, il sera trop tard pour régler le conflit, puisque la Chine va basculer dans le communisme et Ho Chi Minh aura le soutien du grand frère chinois.
C'est ça. Et alors, le point d'acmé de cette guerre, David Cornbrosa, c'est Dien Bien Phu, une cuvette dans laquelle les Français espéraient attirer l'ennemi pour l'écraser enfin. Mais c'est l'inverse qui se produit. On espérait Verdun, ce sera Waterloo.
Oui, ils misaient beaucoup sur cette bataille. Les généraux français se sont dit on va bloquer le Viet Minh, ça va être l'affrontement final, fini la guérilla, ça va être armée contre armée dans cette cuvette, on va les bloquer, ça va être la bataille décisive. Et malheureusement, tout l'inverse se produit. Les Vietnamiens, le général Giap, qui est aux commandes du Viet Minh depuis des années, puis Ho Chi Minh et ses troupes, vont voir le danger arriver, vont bien se préparer et vont réussir à battre l'armée française. Et ça va être une des terribles défaites qui va déclencher les autres conflits coloniaux.
C'est ça, ça va être un carnage qui obligera enfin déjà la France à trouver un accord pour mettre fin à cette guerre. Ce sera fait le 21 juillet 54. Et puis c'est vrai, l'indépendance qui est accordée annonce en fait la fin de l'Empire colonial français. C'est aussi pour ça qu'elle est importante, cette guerre.
C'est le premier domino de l'Empire colonial qui s'effondre, puisque c'est en 54 qu'a lieu la bataille de Dien Bien Phu, et c'est aussi en 54 que démarre la guerre d'Algérie. Quelques mois plus tard, c'est la Toussaint Rouge, et les indépendantistes algériens disent « Écoutez, si les Indochinois ont réussi, nous aussi on peut réussir, on va nous aussi se battre pour notre indépendance et se révolter contre le grand empire, la Grande France ».
Indochine, une guerre oubliée, vraiment, c'est à regarder ce soir sur France 3, documentaire passionnant qui est diffusé à 21h10. Restez avec nous, David Cornbrosa, pour suivre l'actualité des médias dans un instant.
Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans quelques instants. Et ce matin, on va parler de l'ARCOM qui a mis la chaîne BFM TV en demeure. Les explications, c'est dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
9h30, 11h.
Thomas Hill sur Europe 1.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Oui, allô.
Allô de Volvic, patron. Parce qu'en ce moment chez Lidl, le pack de 6 bouteilles d'un litre 5 de Volvic est à 3,18€ et le deuxième est à moitié prix, soit 1,59€.
Moins 50% sur le deuxième pack ? C'est une offre...
Très volcanique, comme la Volvic.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 35 centimes le litre pour un pack, 27 centimes le litre pour deux packs. Offre valable jusqu'au mardi 7 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Vous voulez des essuie-glaces gratuits ? C'est en ce moment chez Carglass. Et oui, jusqu'au 10 mai, si vous faites réparer votre impact ou remplacer votre pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glaces Bosch. Vous avez bien entendu, vos balais Bosch gratuits. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, prenez rendez-vous sur Carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1184€.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, votre invité David Cambrosa, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet.
Et on commence bien sûr avec les audiences en cette veille de 1er mai. Il ne devait pas y avoir grand monde devant la télé,
non,
Julien.
On a des petits scores hein, pour hier soir. Peut-être que beaucoup de Français étaient de sortie pour profiter de cette veille de jour férié. C'est face à face sur France 2 qui a fini en tête hier avec 3 300 000 téléspectateurs. Un bon score quand même. Pour cette série policière avec Claire Borotra donc sur France 2, TF1 et juste derrière 3 200 000 fidèles pour Koh-Lanta. La première chaîne était bien sûr comme d'habitude avec ce genre de programme en tête sur toutes les cibles. Et puis Thomas, en fin d'après-midi, ça se confirme, depuis le lancement de Secret Story, les cartes sont un petit peu redistribuées pour le prix Access. Secret Story a attiré 843 000 téléspectateurs à 17h30 et pendant ce temps-là le juste prix était sous la barre des 500 000, précisément 485 000, c'est le niveau le plus bas du juste prix depuis son lancement mi-mars. Effectivement, on peut penser que Secret Story a pris quelques téléspectateurs au juste prix.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis on reste dans les audiences puisque les chaînes ont communiqué leurs résultats du mois d'avril.
Et les chaînes du groupe France Télévisions sont en baisse de 0,8 points par rapport au mois d'avril 2023, mais le groupe public devance toujours le groupe TF1 qui de son côté grimpe de 1,4 points et fait son meilleur mois d'avril depuis 2021. Le groupe M6 en légère baisse est troisième, suivi de très près par le groupe Canal+, qui progresse de près d'un point en un an. Toutes chaînes confondues, c'est TF1 qui est en tête avec 4 points d'avance sur France 2. Le mois d'avril a été moins fort que le mois de mars pour TF1, mais je le disais, c'est le meilleur mois d'avril pour TF1 depuis 3 ans. Il faut dire que les programmes porteurs étaient nombreux sur la première chaîne en avril. Danse avec les stars, The Voice, Koh-Lanta, Secret Story qui est revenu. Du côté des chaînes info, seul 0,1 point sépare la leader BFM TV de CNews, deuxième chaîne d'info la plus regardée en France en avril.
Et puis la chaîne BFM TV, justement, est mise en demeure par l'ARCOM. Elle est accusée d'avoir déformé des propos de Dominique de Villepin.
Alors, ces faits remontent à fin novembre. À l'époque, la chaîne d'info du groupe Altice avait voulu reprendre des propos tenus quelques heures plus tôt par l'ancien Premier ministre sur le plateau de Quotidien. Mais en évoquant ces propos, BFM TV les aurait déformés. Dominique de Villepin dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales, rapportait alors le journaliste de BFM Ronald Guintranche. Or, de Villepin n'aurait jamais fait le lien entre la domination de la finance et la religion juive. La chaîne avait présenté ses excuses quelques jours plus tard, mais 5 mois après les faits, c'est-à-dire hier, l'ARCOM a officiellement relevé une reprise inexacte. L'ARCOM a mis BFM TV en demeure de respecter l'exigence d'honnêteté et de rigueur de l'information.
Et puis la Commission européenne en guerre contre Facebook et Instagram, qu'elle accuse de ne pas respecter leurs engagements en matière de lutte contre la désinformation.
Nous sommes à 5 semaines des élections européennes et des dirigeants s'inquiètent de possibles manipulations de l'opinion par la Russie. La Commission indique avoir mis en place des outils pour protéger les citoyens européens de la désinformation. Elle accuse Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, de ne pas suffisamment modérer des publicités. Par ailleurs, le système qui a été mis en place pour signaler les contenus illégaux ne serait pas suffisamment facile d'accès et d'utilisation selon Bruxelles. Bruxelles qui se désole aussi de voir que Meta s'apprête à supprimer, ce sera pour cet été, cet outil appelé CrowdTangle, excusez pour mon accent, CrowdTangle, qui est considéré comme essentiel pour repérer et analyser la désinformation. Alors si Meta ne répond pas d'ici la fin de la semaine à ces inquiétudes de la Commission européenne, il y a des sanctions qui sont possibles, prévient Bruxelles.
Et puis la demi-finale de The Voice aura lieu le samedi 18 mai. TF1 en a dit plus sur le sujet.
Et à cette occasion, pour la première fois, les candidats pourront chanter avec leur coach. Grande nouveauté de la saison, c'est le public qui est un jury composé de 4 anciens candidats de The Voice qui seront chargés de voter. Le public présent au plateau. Hein. Ces 4 anciens candidats sont Jérémy Frérot, Anne Silla, Abby Bernadotte et Aurélien Vivos. Le vote du public comptera à 80%, celui du jury à 20% seulement. Les téléspectateurs seront-ils plus nombreux pour ces phases finales? The Voice 2024 avait commencé très fort, hein, avec 4 millions de fans présents pour la première émission. C'était début février. Ces derniers samedis, on était parfois juste sous la barre des 3 millions.
Et d'ailleurs, Jérémy Frérot sera l'invité de Culture Média, sera votre invité Thomas Hill jeudi prochain, le 9 mai.
Et puis on reste dans le monde de la musique avec la chanson française qui se porte bien à l'international et ce, notamment grâce à la plateforme Spotify.
Vous avez entendu cette statistique? Depuis qu'on sait qu'elle chantera le soir de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le 26 juillet, Aya Nakamura est l'artiste française la plus écoutée au monde, ou plutôt la plus streamée au monde. Elle n'est pas la seule française à briller à l'international, évidemment. Il y a aussi Soul King ou Nino, selon Spotify, qui a dévoilé hier ses derniers résultats. L'année 2023 a été une année record. L'an dernier, les royalties reversées aux ayants droit français ont dépassé les 250 millions d'euros, ce qui correspond à une croissance de 13% par rapport à 2022. Antoine Monin, directeur général de Spotify France.
Aujourd'hui, Aya Nakamura, c'est le symbole de cette scène française qui cartonne à l'étranger. Alors, c'est d'abord grâce à son talent, mais c'est sûr que avec la facilité d'usage et la présence de Spotify dans le monde, et avec nos 615 millions d'utilisateurs réguliers, on est un accélérateur, j'ai envie de dire, de cette notoriété et de ce succès. Donc, on est vraiment ravis que l'export de musique française cartonne à ce point-là. Aujourd'hui, les artistes français font la moitié de leurs revenus à l'étranger grâce à Spotify. Donc ça, c'est vraiment une donnée très intéressante.
La réaction du directeur général de Spotify France pour Europe 1. Spotify qui vient donc d'enregistrer une année record concernant la musique française à l'international.
Et puis l'émission Faites Entrer l'Accusé va changer de chaîne cette semaine.
Alors dimanche, l'émission va passer de RMC Story à RMC Découverte. Bon, c'est pas une révolution, un petit changement. Pourquoi ? Parce que RMC Découverte se veut être la chaîne référence du documentaire et des séries documentaires. Voilà ce qu'explique la direction du groupe Altice. Pour marquer ce changement de canal, RMC Découverte va lancer une déclinaison du programme Faites Entrer l'Accusé, Crime flagrant. Chaque dimanche soir, il y aura un grand thème avec deux histoires. Pour la première ce week-end, le thème sera les familicides. Christophe Delay, présentateur de Faites Entrer l'Accusé, réagit pour Europe 1.
Alors ce sera différent de Faites Entrer l'Accusé, mais les fidèles de Faites Entrer l'Accusé ne seront pas perdus pour autant. Elles seront plus compactes, ces histoires. Elles resteront par définition très très denses. Et la nouveauté, c'est qu'elles seront ponctuées de l'analyse, de la présence de Daniel Zaccuri, qui est expert psychiatre auprès des tribunaux, et qui va nous faire la lecture, nous aider à comprendre, en fait, les ressorts psychologiques, psychiatriques qui aboutissent à ces crimes terribles.
Rendez-vous dimanche soir à 21h10 sur RMC Découverte pour suivre donc le premier numéro de Crime flagrant. Les deux premières histoires évoquées seront celles de Dominique Henry et Jordan Lenissa. On verra si ce changement de canal aura ou non un impact sur les audiences.
Et si jamais la psychologie des meurtriers vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a aussi l'excellente émission Côte B. Alors Côte B, c'est le nom du dossier juridique dans lequel on retrouve les analyses psychologiques des condamnés, des tueurs. C'est le vendredi et le samedi de 14h à 15h sur Europe 1 avec l'excellent Christophe Ondelatte.
Excellent, effectivement. Vous regardez ce type de programme, vous, David Cornbrosa, en tant que documentariste, ça vous intéresse, j'imagine?
Très rarement.
Très rarement,
mais ça m'arrive, oui, ça peut m'arriver de regarder un crime passionnel.
Votre spécialité, c'est quand même plutôt l'histoire.
C'est le documentaire, l'histoire et l'archive.
Quel sera le prochain thème, d'ailleurs, sur lequel vous allez travailler? Est-ce que vous le savez déjà?
Écoutez, il se trouve que j'ai deux autres films diffusés ce mois-ci, qui arrive, puisque je finis un film sur un GI qui a débarqué en Normandie, un Français, qui était un jeune Français de 20 ans, qui est parti aux États-Unis en 1938, et il revient en 1944 pour libérer la France, dans les troupes américaines. D'accord. Ça sera le 27 mai, il me semble.
Sur France Télé?
Voilà, sur France Télé. Ouais. Et aussi un grand prime pour TF1 sur le D-Day, ça sera autour du 6 juin, évidemment.
Merci beaucoup et merci Julien pour ce journal des médias. Indochine, une guerre oubliée, c'est donc ce soir, on le rappelle, sur France 3 à 21h10. C'est notre coup de cœur, c'est aussi celui de Télé Loisirs. J'ai vu ça, vous voyez, je suis pas le seul à dire que vous avez extrêmement bien travaillé.
Mais regardez, vous serez pas déçus.
Merci beaucoup David Cambrosa d'être venu ce matin.
Et Culture Média, Thomas, continue après les infos de 10h.
Oui, et on sera avec Alice Belaïdi et Artus qui nous présente son premier film. Un petit truc en plus.
Et puis un rendez-vous d'information à noter, c'est du lundi au vendredi de 13h à 14h. Votre rendez-vous d'info de la mi-journée présenté par Céline Géraud, Europe 1, 13h avec toute la rédaction d'Europe 1, des reportages, des témoignages d'auditeurs et des débats sur les grands sujets de préoccupation des Français. Aux côtés de Céline Géraud, tout à l'heure, Gilles William Goldanel et Georges Fenech. C'est sur Europe 1, Europe 1, 13h, tous les jours de 13h à 14h.
L'insuffisance cardiaque est une maladie invisible qui touche plus d'1,5 million de personnes en France. Reconnaître les signaux d'alerte est essentiel pour la détecter et la prendre en charge. On en parle avec Sandrine, dont le père souffre d'insuffisance cardiaque. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tout a débuté par une fatigue inhabituelle de votre père, c'est bien ça ?
Oui. Depuis quelque temps, j'avais remarqué qu'il manquait d'énergie, même pour le bricolage, qui est sa passion. Et puis, il était vite essoufflé, y compris pour des tout petits efforts.
Est-ce que vous aviez observé d'autres changements chez lui ?
Un jour, j'ai vu que ses chevilles avaient gonflé, ouais. Et il avait même la marque des chaussettes, vous voyez ? Et c'est là que je me suis souvenu que ces symptômes pouvaient être des signes d'insuffisance cardiaque.
Et vous avez réagi comment alors ?
Je lui ai aussitôt dit de prendre rendez-vous chez son médecin, et j'ai bien fait parce que le diagnostic a été immédiatement confirmé et il a évité des complications graves. Depuis, il est pris en charge et il va bien. Ouf ! Il a même pu se remettre au bricolage.
Merci beaucoup.
On en parle. Pour en savoir plus sur l'insuffisance cardiaque, rendez-vous sur amélie.fr.
Leclerc, bonjour.
Oui.